لأني أحبك عنف وأطلب في العنف مثل اللي مثلي.
Je n'ai pas suivi de cours de chant. En fait, c'est un don. J'ai eu des professeurs qui m'ont aidé à l'apprentissage de la musique, mais pas du chant.
Ce malouf, donc, qui veut dire accoutumé, en arabe littéraire de malouf, est vraiment un patrimoine classique tunisien, propre à la Tunisie.
Quand on a une belle voix, on avait toujours tendance à me ramener vers ça, alors que moi, je me considère comme beaucoup plus que ça. Il y a aussi le côté politique auquel on a toujours essayé de me ramener. Enfin, c'est pas que je suis pas engagée, je le suis, je le serai toujours, je pense.
France Culture. La série musicale
Not Lost.
Zoé Sfez.
Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cette émission toujours libre, plus libre que jamais, de tous les récits, de toutes les lignes musicales, de toutes les voix. Une émission diva, c'est la série musicale format réduit à 42 minutes pendant 6 semaines. Mais on est toujours sur France Culture et heureux d'être ensemble, bienvenue. Ce sont les déesses des temps modernes, les divas, ces femmes à qui nous consacrons une série que vous pouvez retrouver évidemment en podcast. Ce sont ces femmes qui chantent mais qui représentent plus encore que leur voix seule. La qualité de leur timbre, leur musicalité compte évidemment, mais avant tout elles arrivent à représenter, à incarner un répertoire, une culture. Un combat, parfois, ces voix de femmes qui perdurent au-delà des modes, qui s'écoutent pendant des générations, traversent parfois les frontières. Ces voix douces comme le miel, mais fortes comme la lutte, la Tunisie, en compte et ô combien. Alors si du monde arabe, on connaît bien sûr très bien les voix des égyptiennes Kalthoum ou Asmahan, celles de la libanaise Fairouz ou de l'algérienne Ouarda, on connaît bien trop peu à mon goût en France. Celles des chanteuses tunisiennes qui ont marqué l'histoire de leur pays et du chant arabe, voire même du rap en arabe ou en français. Et pourtant, quelles voix, quelles divas, quelles histoires, quelles pionnières que ces divas tunisiennes, de la paysanne Saliha, parvenue au sommet à force de combativité, à la jeune Emel Matlouti, devenue célèbre en même temps que son pays faisait la révolution, en passant par la figure superbe et éminemment libre de la toute première diva tunisienne Habiba Msika, au pays du jasmin, les divas sont des lionnes. Alors, hommage forcément subjectif et comme toujours non exhaustif dans la série musicale sur France Culture.
Sous-titrage Société Radio-Canada.
Yatoun Siyameskine, à ma pauvre Tunisie, la voix, le souffle, le courage de la chanteuse Emel Matlouti, qui s'appelait encore à l'époque uniquement Emel, dans ce titre qui date de 2012, celle qui, on peut le dire aujourd'hui, règne sur la scène musicale tunisienne, cette chanteuse, cette diva, biberonnée aux chanteurs protestataires arabes et à la musique de John Baez, est devenue célèbre en même temps que son pays a accédé à la démocratie. Et ce n'est pas un hasard, elle s'inscrit dans une très longue lignée de divas, de femmes qui chantent et qui revendiquent la liberté. Car les premières grandes voix de femmes qui nous sont parvenues de Tunisie, elles datent des premiers moments de la musique enregistrée au début du siècle. Dans une Tunisie qui se remet de la Première Guerre mondiale, qui est alors, on le rappelle, un protectorat français, à Tunis, entre les effluves de jasmin, de fleurs d'oranger, on trouve tout un monde cosmopolite très hétéroclite. Il y a évidemment encore les Zouaves, les tirailleurs sénégalais qui sont présents dans la ville, toute une série de dignitaires français. Et on danse le foxtrot, mais on se presse surtout dans les Kafi Chanta, contraction arabisante du français café chanté, ou qu'on appelle dans la tradition arabe les mihana, ces lieux où les femmes chantent. On en trouve surtout à la Hara, le quartier juif de Tunis, établi, dit la légende, par Sidi Mahrez, un saint, un homme légendaire, associé à la culture soufie en Tunisie, une culture éminemment liée à la musique. C'est lui qui aurait décidé d'installer là les juifs, dont il est le saint patron, mais c'est aussi le saint patron des femmes. Rien n'est un hasard. Et de fait, les premières divas tunisiennes dont on connaît la voix sont quasiment toutes juives, car ce sont les seules qui peuvent, d'une certaine manière, à revendiquer une certaine forme de liberté. Ce sont aussi celles qui ont le plus besoin de vivre. Elles se produisent alors dans ces mihana pour une clientèle très cosmopolite. On trouve aussi bien des bourgeois européens que des prolétaires arabes ou juifs qui viennent écouter ces femmes de petite vertu, mais pas tout le temps, qui s'appellent Fritna Darmon, les sœurs Semama, ou alors, c'est la première dont on connaît la voix, attention, l'enregistrement évidemment date et il fait un peu mal aux oreilles, la première chanteuse enregistrée de l'histoire de la musique tunisienne s'appelle Leïla Sfez. Leïla Sfez, l'une des premières chanteuses qui donnait des concerts dans une mihana. Alors évidemment, cette voix est frêle. Leïla Sfez est surtout célèbre, connue, et on lui sait gré en Tunisie d'avoir formé la toute première grande diva tunisienne qui n'est autre que sa nièce. Elle s'appelle Habiba Msika, sous l'influence de sa tante, à 7 ans, parce qu'elle a déjà une jolie voix et un minois intéressant, bien que personne ne reconnaîtra en elle une beauté sublime. Habiba commence les cours de chant, de solfège et d'arabe classique prodigués par le célèbre compositeur Khemaïs Tarnane. Son premier concert, elle le donne en public alors qu'elle est à peine adolescente au palais Assus de la Marsa, cette petite ville de villégiature où l'on trouve un peu toute l'aristocratie du pays. Dès 1920, la carrière de Habiba va décoller. Elle va à Paris où elle rencontre Picasso ou encore Coco Chanel, qui dit d'elle que Habiba est un tempérament de feu sous ses grâces orientales. Elle s'impose même dans les cabarets qui produisent des chanteurs d'Afrique du Nord avant de retourner en Tunisie, où elle va triompher comme chanteuse mais aussi comme comédienne au Théâtre National de Tunis, où elle va devenir une comédienne extrêmement audacieuse. Elle joue dans des grandes pièces adaptées de la culture arabe, par exemple évidemment Le Fou de Leïla, Leïla et Majnoun, mais aussi dans des pièces de la culture occidentale, Lucrèce Borgia. Elle choque en interprétant L'Aiglon d'Edmond Rostand, où elle incarne le personnage masculin, ou encore le personnage de Roméo dans Roméo et Juliette de Shakespeare. Elle embrasse sur scène, à pleine bouche, une comédienne libyenne, ce qui lui vaut évidemment d'être pourchassée par une Tunis qui est encore fort prude, aussi bien du côté des Européens que des musulmans et des Juifs. Elle s'entoure alors d'une horde de fans qui la protège, réserve tous les sièges au premier rang. Ils s'appellent les soldats de la nuit, Asker el-Lil. Le succès immense de Habiba Msika va évidemment durablement marquer la Tunisie, non seulement parce qu'elle est fougueusement libre, mais aussi parce qu'elle s'engage en politique. En 1928, elle va affirmer ses convictions nationalistes contre le protectorat français, qui est de plus en plus imposant. Elle interprète la pièce « Patrie, martyr de la liberté », habillée, drapée dans un drapeau tunisien. Mais Habiba Msika est sans doute un peu trop libre. Elle a beaucoup d'amants, des dandys, des hommes d'affaires, des princes égyptiens, dit-on. À 27 ans, elle quittera tout pour épouser son amie d'enfance dont elle est enceinte. Mais son ancien amant ne le supporte pas. Il se présente devant son appartement, elle lui jette de l'essence au visage et elle meurt brûlée vive. Dans son appartement nous reste sa voix incomparable. La voix de Habiba Msika, nous sommes dans les années 20. Martyr Habiba Msika, qui reste une figure adulée en Tunisie. La Tunisie, cette toute petite terre, 12 millions d'habitants aujourd'hui, qui en comptait 10 millions de moins au début du siècle. Et cette terre très fascinante à la croisée de bien des cultures, c'est là évidemment qu'a existé l'immense Carthage. La Tunisie qui a ensuite évidemment une longue histoire bédouine, avant la conquête arabe, puis la conquête ottomane au XVIIIe siècle. Protectorat français à partir de 1881, la Tunisie a connu bien des influences, celle des Italiens, tout prêches, qui ont souvent qui sont souvent arrivées sur ses rives, mais celle aussi des Andalous, si bien que la culture musicale tunisienne est extrêmement riche. Évidemment, on y chante le tarab, le chant classique arabe, mais il existe aussi une tradition extrêmement importante, celle du malouf, qui raconte bien les croisements extraordinaires qui ont eu lieu, qui se sont joués sur les rives de ce qu'on appelait à l'époque romaine la Frikia. Comme le raconte Sonia Mbarek, elle est musicienne, chanteuse, enseignante, et elle a été ministre de la Culture en Tunisie. Elle-même est une grande chanteuse de malouf. Elle explique exactement de quoi il s'agit dans cette émission sur France Culture, La Rose des Vents, 1997.
Le malouf, en général, c'est en fait un courant musical qui est très important en Tunisie, traditionnel, classique. Il est composé de modes spéciaux, de modes tunisiens, comme Asparain, par exemple, Ras Dedil. Et il se présente sous forme, en fait, de nouba. La nouba, c'est une suite de chansons dont le rythme est différent. On commence par une improvisation. Ensuite, ça commence avec un rythme ralenti. Et puis, ça va de plus en plus vite jusqu'à la fin. C'est un répertoire qui nous vient de l'Andalousie, de l'Espagne. Et ça fait très longtemps, bien sûr, des centaines d'années, que les Espagnols étaient venus s'installer, les Andalous spécialement, étaient venus s'installer en Tunisie, au Maroc aussi, en Algérie donc. Et ce qui a fait que le brassage en fait entre cette musique andalouse et la musique tunisienne a donné ce malouf. قد بشرت بقدومكم بشرت بقدومكم ريح قد بشرت بقدومكم ريح ريح الصبا ومرحبا
مرحبا.
Sonia Mbarek, diva, femme forte de la politique tunisienne, éphémère, ministre de la Culture, dirigeante de la Rachidia, dans un malouf, une suite en mode Hasbein. Les maloufs qui durent extrêmement longtemps, on ne peut absolument pas les écouter en entier et on le regrette bien. Le malouf, ça a été l'un des genres de prédilection de l'une des toutes premières et les plus grandes divas arabes dans les années 30, 40 et 50. Elle s'appelle Saliha, mais elle est née Salouha et elle n'était pas tout à fait tunisienne puisqu'elle est née en Algérie, dans une famille très pauvre qui émigre dans la région du Kef en Tunisie. Le père ne parvient pas à trouver de travail et donc sa femme et sa toute jeune fille, Salouha, s'engagent comme bonne, comme on disait à l'époque, chez le prince Mohamed Bey, le frère de Moncef Bey, donc souverain husséinite qui règne alors sur une Tunisie qui est tout de même un protectorat français. C'est dans cette maison aristocratique, où on est très mélomane, que la petite Salouha se forme à l'oreille, de manière totalement passive et cachée, à la musique. Elle jouit des leçons qu'on donne aux petites princesses avant de s'engager toujours comme domestique chez Badria, qui est une chanteuse très en vogue dans le Tunis des années 30. La légende veut qu'un jour, en nettoyant la vaste demeure alors qu'elle se croit seule, elle se met à chanter à pleine voix et est remarquée par un avocat qui passe par là, qui va la présenter à d'autres. Elle devient alors la nouvelle coqueluche des galas et autres soirées privées qui ont lieu dans la Tunis occupée des années 40. Elle se fait enfin remarquer dans les années 30. Elle se fait remarquer par Mustapha Sfarn, un homme politique de premier plan en Tunisie dans les années 30, qui fonde une institution cruciale en 1934, la Rachidia, association mais aussi école de musique destinée à garder une trace et à permettre l'enseignement de la musique traditionnelle tunisienne et notamment du malouf qui se transmettait jusqu'ici uniquement à l'oral. Il accorde une bourse à Salouha pour qu'elle puisse avoir tout le temps qu'il fallait pour apprendre le malouf et son dérivé tunisien, le fondo. Saliha chantera toute sa vie et deviendra la plus grande icône de la musique bédouine. Très vite rebaptisée Saliha, elle a cette voix très mélodieuse, extrêmement expressive, qui lui vaut un grand succès pendant tout le Maghreb. Elle devient une icône bédouine, mais chantera souvent avec un voile sur le visage pour dissimuler cette tatouage berbère dont elle a tout de même un peu honte. Saliha, qui pour se venger de son enfance misérable, va vivre dans le luxe, dans les excès, et qui mourra à seulement 44 ans. 15 jours après avoir donné au théâtre municipal de Tunis son dernier gala. C'est un gala qui a lieu dans une Tunisie indépendante et qui aura lieu au bénéfice du FLN, destiné à acquérir l'indépendance pour l'Algérie qu'il avait vu naître. Pendant plusieurs années, la radio tunisienne va diffuser chaque semaine un programme d'une heure intitulé Festival Saliha, qui la place encore aujourd'hui dans l'oreille de toutes les générations de Tunisiens. Son répertoire de malouf, chanté en arabe dialectal, était très prisée. Elle a aussi beaucoup, beaucoup chanté le registre du Melhoun, une tradition musicale qui, elle, venait des Bédouins du Sahel. Écoutez-la, Saliha.
Thank you.
L'excitation du public face à Saliha, l'immense star des années 40, 50, à l'orée des années évidemment 50, 60, Saliha acclamée. C'est en écoutant cette chanteuse que va se former, va émerger la nouvelle génération de divas, celle qui va marquer les années 60, celle de la Tunisie indépendante. Parmi elles, on peut évidemment mentionner Naama, la grande dame qui nous a quittés en 2020, et sa grande rivale, l'immense Oulaya, qui elle ne vient pas de la pègre, mais d'une famille d'artistes. Son père, Béchir Ahal, était l'un des pionniers du théâtre tunisien. Son beau-père est un violoniste. Et donc, cette jeune femme va être découverte. Elle va rentrer, elle aussi, à la Rachidia. Toutes ces grandes chanteuses sont formées au sein de cette institution qui a eu un rôle déterminant dans l'essor de la musique et de ses protagonistes de la musique tunisienne. Son mari, qu'on dit compréhensif, va lui permettre de chanter. Elle va rencontrer beaucoup de compositeurs tunisiens avec qui elle collaborera, Oulaya. C'est elle qui domine la chanson des années 60 en Tunisie, tant et si bien que consécration absolue, Oulaya va partir vivre au Caire. C'est un petit peu le Graal, le Hollywood de la chanson arabe, où elle va devenir, dans les années 70 et 80, l'une des divas les plus écoutées du monde arabe. Il faut dire que la disparition de la déesse sans titre, Oum Kalthoum, en 75, lui permet de trouver sa place. Elle se remarie d'ailleurs avec un compositeur égyptien, Elmi Bakr, en 81, qui va écrire pour elle des titres que la plupart des jeunes chanteurs arabes chantent encore aujourd'hui, comme Ali Garam. Et on avait envie ici de vous donner à entendre un superbe poème mis en musique par Mohamed Rida, un poème du très très grand écrivain tunisien Jafer Mjed, Essahira, interprété par Oulaya. La chanson est une chanson du Tarab, elle dure plus de 14 minutes. On a décidé donc de vous donner à entendre la fin de ce superbe morceau.
Thank you.
Olaya qui interprète cette chanson Asahira, qui est un des grands emblèmes de ce répertoire tunisien, donc du chant arabe classique et du malouf. Ses voix extrêmement fortes, celle de Saliha, celle d'Oulaya. La chanteuse Abia Nasraoui leur a consacré un spectacle qu'on a pu, certains chanceux ont pu voir à l'Institut du Monde Arabe à Paris. Ça a été l'une des questions à le tournant du nouveau millénaire. Comment sortir de cette longue tradition si riche, si grande, de ces voix si impressionnantes? Comment réinventer le répertoire tunisien? C'est une question qu'Abia Nasraoui, chanteuse merveilleuse, extrêmement bien formée, s'est posée lorsqu'elle décide de sortir un album en 2011. Elle avait été reçue dans l'émission Summertime sur France Inter. On était juste avant la révolution du jasmin.
On m'appelle souvent quand il y a des hommages à de grands noms ou au tarab. C'est ça, en fait, on l'appelle le tarab, ce classique-là, cette musique-là. Et c'est vrai que j'en ai vraiment besoin. De temps en temps, je reviens vers les sources, en quelque sorte.
On ne peut pas faire de rupture totale, de toute façon.
Pas du tout. Pas du tout. Et ça reste dans ma voix aussi.
Mais c'était un chemin difficile à prendre, Abia Nasraoui?
C'était une décision, pas un chemin, mais une décision très, très difficile.
Pourquoi?
Parce que, ça va peut-être vous faire rire, il y avait mon père, en tout cas, devant mes yeux, quand il fallait prendre ce chemin-là. Mon père, c'était comme, je l'ai vécu comme une trahison. Pour lui, il n'y a que celle-là qui vraiment représente la musique. Et pour lui, les autres, non. Ce n'est pas de la musique. C'est du n'importe quoi. Donc, il fallait déjà me débarrasser de l'emprise de mon père.
Et qu'est-ce qu'il en pense, votre père, aujourd'hui, de ce que vous faites?
Mon premier concert, il ne l'a pas vu. Il ne voulait pas assister. Ah, et je l'ai très, très mal vécu. Ouais. C'était très, très dur. Maintenant, il adore le disque.
Abia Nasraoui qui mérite bien la qualification de diva, tant cette chanteuse extrêmement bien formée au chant classique, qui a tout chanté à Doum Kaltoum d'Oulaya, a osé cette rupture en 2010 avec cet album Heima, dont est issu ce titre Cœur battant. On était un an avant la révolution du jasmin et elle osait le mariage avec le tango. Elle a ensuite consacré un très bel album à la reprise de musique soufie, essentiellement traditionnellement chantée par des hommes, qu'elle a donné à entendre dans des voix de femmes. un an après la sortie de cet album, on l'entend, qui rompt, hein, qui ose se permettre des mélanges avec le tarab, surgit évidemment la révolution du jasmin, qui va révéler une grande diva, Emel Matlouti. Elle émerge après une vidéo devenue virale pendant une manifestation. On aperçoit cette jeune chanteuse qui interprète une chanson qu'elle a elle-même écrite et composée. « Ma parole est libre ». Écoutez. Kelmte Hora, ma parole est libre. Cette chanson interprétée depuis une manifestation par cette jeune chanteuse Emel Matlouti va devenir le slogan, l'hymne de cette révolution du jasmin dans la foulée de l'arrivée de la démocratie en Tunisie. Emel Matlouti, qu'on appelait encore Emel à l'époque, sort un premier album triomphal qui va quand même lui donner une étiquette de femme engagée qui fera peut-être oublier à quel point sa voix est immense, combien cette voix peut. Une carrière extrêmement importante, hein, depuis 2011. Elle vit depuis 10 ans entre la Tunisie, la France et les États-Unis. En 2020, elle a fait un grand retour, un retour tout en liberté avec un double album, les Tunis Diaries, un double album enregistré dans l'intimité de sa maison pendant le confinement où elle était seule avec son père et son petit enfant. D'un côté, des compositions en arabe, de l'autre, des grandes reprises, des grands classiques de la musique occidentale. Elle en avait besoin, expliquait-elle à Marie Richeux dans « Par les temps qui courent ».
Tout en évoluant artistiquement, quand on a une belle voix, on a, enfin, en tout cas, mon cas à moi, on avait toujours tendance à me ramener vers ça, alors que moi, je me considère comme beaucoup plus que ça. Il y a aussi le côté politique auquel on a toujours essayé de me ramener. Enfin, c'est pas que je suis pas engagée, je le suis, je le serai toujours, je pense. Je l'étais. Mais c'est juste que par moments, j'ai eu beaucoup de frustration à ne pas être reconnue pour toutes les facettes de ma personnalité, mon chemin artistique. Et là, en fait, je me suis posée, en fait, je me suis dit, mais il faut que j'arrête, en fait. Et il faut que je sois fière de mon histoire, de tout ce que j'ai entrepris. Et puis, en fait, moi, ça peut être acoustique, ça peut être électro, ça peut être politique, ça peut être casse-cou, ça peut être romantique, ça peut être... voilà.
We passed upon the stairs. We spoke of was and when. Although I wasn't there, he said I was his friend, which came as some surprise. I spoke into his eyes, I thought you died alone.
The Man Who Sold the World, grand chef-d'œuvre de David Bowie, repris ici par Emel Matlouti dans son album Tunis Diaries, élu quatrième meilleure reprise de tous les temps de David Bowie. Ça valait le coup qu'on vous la passe. Cette émission a été préparée avec le soutien de Lou Covovillier. Elle a été réalisée par Colin Gruel et mise en onde par Ruben Kermazine. Vous pouvez évidemment la retrouver, à comme tous les autres épisodes de la série musicale et de notre série Diva, sur l'application Radio France et toutes les bonnes applications de podcast. Quelques conseils d'écoute, de lecture, le podcast Vintage Arabe et le magnifique livre Tunis chante et danse. On se retrouve la semaine prochaine.
All left in shook his hand.